Autre radio, autre culture, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans le théâtre, et plus particulièrement au niveau du Théâtre du Nord-Ouest, qui est situé à Paris, en compagnie de Pierre Sourdif, qui est comédien, metteur en scène. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Et de Florian Bernard, qui est comédien. Bonjour Florian.
Bonjour.
Alors ce théâtre se trouve à quel endroit ?
Il se trouve au métro Grand Boulevard, donc dans un quartier où il y a déjà d'autres théâtres, un quartier très populaire, très fréquenté, tout près du musée Grévin. Il existe depuis longtemps. C'est un lieu qui a vu, qui a été un cinéma, qui a été un music hall. C'est un lieu qui a été, qui a par exemple vu la rencontre entre Edith Piaf et Marcel Cerdan. Et puis, c'est devenu vraiment un théâtre depuis 13 ans. Voilà, il a 13 ans d'existence.
13 ans, c'est encore un jeune adolescent.
Voilà.
Alors... Ce théâtre, d'après ce que j'ai pu lire, reçoit environ 40 compagnies dans son sein. Comment ça se gère, 40 compagnies dans un théâtre pareil ?
Avec difficulté. Si vous voulez, peut-être peut-on parler d'abord de la philosophie du théâtre pour expliquer pourquoi il y a 40 compagnies. Le Théâtre du Nord-Ouest a une particularité, c'est qu'il fait ce que l'on appelle des intégrales d'auteurs. C'est-à-dire qu'il prend un auteur, par exemple Victor Hugo, et il présente toutes les pièces de Victor Hugo. Alors, il y a eu ainsi au Théâtre du Nord-Ouest l'intégrale de Molière, de Racine, de Corneille, de Monterland, de Victor Hugo, de Shakespeare, etc. Et actuellement, il y a une intégrale de La Biche. En général, ces intégrales durent 6 mois. Et les 6 autres mois de l'année, il y a un thème. Par exemple, des prisons et des hommes, qui a été un des derniers thèmes, où là, des jeunes auteurs, jeunes ou vieux, mais enfin des auteurs, peuvent venir présenter leurs œuvres avec des jeunes comédiens, des nouveaux metteurs en scène. Disons que c'est un tremplin pour pouvoir roder ces pièces et puis ensuite éventuellement pouvoir les porter ailleurs. Donc 6 mois, c'est un auteur, 6 mois, c'est un thème. Quand il s'agit d'une intégrale d'auteurs, il y a aussi des metteurs en scène et des comédiens qui viennent et qui essayent, qui se frottent à Shakespeare, à Monterland, ou à Claudel, ou à des gens comme ça. Donc voilà, c'est un cas unique. C'est un cas unique parce que personne ne s'attaque à des intégrales de cette façon-là. Il arrive que sur un même théâtre, on puisse donner une ou deux pièces du même auteur en même temps, mais pas, par exemple, les 166 pièces de La Biche. Alors, ce théâtre comporte 2 salles, et la programmation est faite de telle sorte que les spectacles se donnent en même temps dans chacune des salles, et qu'il y a entre 4 et 12 représentations par jour, sur des pièces différentes. Ainsi, la gestion dont vous parliez est assez compliquée. Quand il n'y a pas de spectacle, les salles sont prises en permanente pour les répétitions. Donc, c'est une occupation totale du lieu. Voilà en quoi, déjà, cette philosophie et cette façon de faire est différente de ce que l'on peut trouver dans les autres théâtres en France. Alors, les compagnies peuvent présenter 1, 2 ou 3 spectacles. Elles le proposent au directeur, il y a une discussion, et ensuite, le directeur dit « bon, ben, à vous », et ensuite, on s'entend pour les répétitions, un planning est fait, puis ensuite, un planning de représentation qui est édité, et les gens, après avoir répété, en général, pendant 2 mois, 2 mois et demi, viennent ensuite. Alors, évidemment, sur un cycle donné, toutes les pièces ne démarrent pas en même temps. Au départ, il y en a 5 ou 6, et puis au fur et à mesure, les autres pièces arrivent. Voilà comment ça se passe. Alors la gestion est effectivement un petit peu difficile, mais ça se passe très bien dans une très bonne entente, parce que au fond, tout le monde est volontaire dans cette histoire. Il n'y a pas d'impératif, d'argent ou de quoi que ce soit. Les gens arrivent, ils ont envie de présenter quelque chose et ils le peuvent. C'est en cela que c'est une seconde originalité, c'est qu'au fond, si quelqu'un est passionné par un auteur, ou si lui-même est auteur et veut absolument montrer son travail, et il arrive, il s'intègre dans le cycle qui est en cours ou qui va être donné, il en discute avec le directeur qui lui donne carte blanche. Donc là aussi, on a affaire à quelque chose de totalement inédit. Il n'y a pas d'audition préalable ou choses comme ça. Il y a une vraie discussion au départ et à la limite, après, chacun prend ses risques et présente son travail.
Mais comment l'auteur se débrouille? C'est à lui de trouver la compagnie théâtrale pour jouer sa pièce?
Oui, absolument. Vous savez, ça c'est la chose courante. Hein. Ça, dans tout le théâtre français, quand un jeune auteur écrit quelque chose, ensuite, où il se sent une âme de metteur en scène ou non, mais dans tous les cas de figure, il doit trouver une troupe, une compagnie, et ensuite essayer, comme on dit, de monter son spectacle. Donc là, il n'y a pas de différence. La troisième différence, elle est d'ordre financier, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous voulez jouer une pièce de théâtre, vous payez pour jouer. C'est-à-dire que vous louez les salles en payant à l'avance, et ensuite sur les recettes, le théâtre reprend une partie, et avec ce qui reste, la compagnie fait ce qu'elle peut pour rembourser ses frais, payer les comédiens, etc. Donc si vous voulez, la grande originalité du théâtre du Nord-Ouest, c'est qu'on ne paye pas pour jouer. Si le projet est intéressant, on vient, on joue. Et ça, c'est absolument exceptionnel, c'est formidable pour des artistes de pouvoir se dire que, soit en tant qu'auteur, soit en tant que metteur en scène, soit en tant que comédien, on peut aller dans ce lieu et jouer. C'est unique.
Est-ce qu'il y a une administration importante au sein du théâtre ?
Non, pas réellement, parce qu'au fond, le théâtre fonctionne avec la bonne volonté de tout le monde. Donc, au contraire, c'est assez léger. Contraire, non. Parce que sinon, les frais seraient énormes. Malgré ça, le théâtre a des difficultés financières. Parce qu'effectivement, il n'exige pas à l'avance une rentabilité en faisant payer à l'avance des salles et des locations, etc. Et donc, il est dans des difficultés importantes.
Donc, en fait, la plupart des recettes qu'il récupère, ce sont les gens qui viennent au théâtre pour écouter les pièces.
Oui, évidemment. Voilà. Alors, les subventions sont très faibles, mais c'est un théâtre extrêmement vivant. C'est un théâtre dans lequel beaucoup d'auteurs et de comédiens ont débuté et ont pu ensuite aller porter leur travail ailleurs et puis le développer et puis être de plus en plus demandé, de plus en plus connu, etc. Et il y a comme ça dans le théâtre français beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont commencé ou en tout cas sont passés par le Nord-Ouest. Évidemment, quand vous donnez 70 spectacles pendant 6 mois, vous réunissez entre 300 et 400 comédiens. Il y a donc parmi eux des gens confirmés, certes, mais il y a aussi des débutants. D'ailleurs, c'est l'intérêt, c'est de leur donner aussi leur chance. Donc, on a des jeunes qui viennent et qui, pourrait-on dire, se font les dents grâce au Nord-Ouest.
Florian, je passe à toi. Ça fait combien de temps que tu joues au théâtre du Nord-Ouest ?
Ça fait depuis à peu près un an et demi.
Qu'est-ce qui t'a apporté particulièrement ?
Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup enrichi. Moi, j'ai surtout commencé par jouer dans une création dans le cycle Prison et des Hommes. Et c'est vrai que c'est un endroit assez spécial. Et ce que disait Pierre, c'est que c'est un endroit... Notamment pour nous qui débutons, pour les comédiens qui débutent, c'est un tremplin. Et ça permet vraiment ce théâtre m'a donné ma chance. Ça m'a permis aussi de faire des rencontres. Et voilà, moi j'ai une très très bonne expérience en débutant dans le cycle des prisons et des hommes, où je jouais dans une pièce appelée Abolition. Et voilà, ça permet de faire des rencontres et vraiment de pouvoir débuter. Donc c'est vraiment un endroit exceptionnel, quoi.
Est-ce que tous ces comédiens arrivent à vivre de leur métier ou sont-ils obligés d'avoir un métier
là,
à l'extérieur ?
ça c'est une question qui ne s'applique pas seulement au Nord-Ouest. Ouais. La profession de comédien est une profession totalement sinistrée en France. Et cependant, nous avons beaucoup de chance par rapport à d'autres pays. Mais enfin, on estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près 2% des comédiens qui vivent de leur art. C'est terrifiant, parce que ça veut dire que 98% sont obligés d'avoir une autre activité ailleurs, de se débrouiller comme ils peuvent, etc. Cependant, en France, nous avons eu la chance d'avoir un statut d'intermittent, ce qui existe dans très très peu de pays, donc c'est un statut de chômage tout à fait particulier. Mais il est vrai que, à part certaines vedettes, je ne parle pas des stars, mais certaines vedettes ou certains gens qui ont, beaucoup d'expérience, la plupart du temps, c'est un lieu de commun de dire que le comédien mange de la vache enragée. Hein.
Est-ce que vous faites une dichotomie entre le comédien de théâtre et l'acteur dans les fictions, télévision ou au cinéma ? Est-ce que vous faites une différence en tant que tel ?
Non, pas vraiment, parce qu'en fait, si les techniques sont un peu différentes, c'est tout de même le même métier. On fait le même métier. Que l'on soit devant une caméra ou devant un public, évidemment, la technique n'est pas la même, la réception de ce que l'on fait n'est pas la même, mais au bout du compte, il s'agit d'incarner un personnage et d'essayer de l'incarner le plus fidèlement possible, avec le plus de vérité possible. Et voilà. Donc, oui, le chemin pour y parvenir n'est pas tout à fait le même, mais c'est le même métier.
Alors Jean-Luc Génère, qui est le directeur du théâtre, propriétaire du théâtre, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il est exactement ?
Oui, disons qu'il est responsable de la compagnie qui s'appelle la compagnie de l'Élan, qui elle-même dispose du théâtre du Nord-Ouest, mais qui est en location, hein, c'est un lieu qui est en location. Voilà. Donc lui, il est effectivement le gérant de ce théâtre.
Jean-Luc Génère disait que ce théâtre permettait de mettre le comédien devenu personnage et le texte au centre de l'expérience théâtrale et de faire fi du superflu et favoriser un échange et une réflexion constructive entre les auteurs et leur public. Alors comment ça se traduit au sein de ce théâtre ?
Alors ça se traduit de la façon suivante. Il y a deux salles, comme je vous disais, une petite salle et une grande salle. Dans la petite salle, le public entoure la scène qui est de plein pied avec le public. Donc, la scène est petite, la salle est petite, ce qui fait que les comédiens jouent parfois à 30 cm des gens. Donc, il y a une proximité extraordinaire. Dans la grande salle, c'est un peu moins vrai. On a affaire plus à un théâtre à l'italienne, avec une très très grande scène, mais la proximité du public est quand même très grande. Il n'y a pas un éloignement important du tout. Donc, si vous voulez, ce premier élément, c'est la proximité entre les comédiens d'une part et le public d'autre part. La seconde chose, c'est que Jean-Luc Génère pense que, au fond, un texte, c'est la volonté d'un auteur, c'est la pensée d'un auteur, et ce qu'il faut faire valoir au travers de l'action et des personnages, c'est cette pensée, parfois non exprimée d'ailleurs, ce qu'on appelle le sous-texte, hein, c'est-à-dire ce qui se cache derrière les mots. Très souvent, les grands dramaturges disent autre chose que ce qui est dit. Il y a beaucoup de sous-entendus. Il y a beaucoup de sous-textes dans les grands textes de théâtre. Donc Jean-Luc Génère s'efforce, lui, de supprimer tout ce qui peut distraire le spectateur de la vie de ces personnages qui sont tout d'un coup devant le public et qui tout d'un coup sont incarnés par des comédiens. Donc, il a tendance à supprimer tout ce qui est décor, à avoir le minimum d'accessoires, le minimum de costumes, le minimum de musique, enfin, pour véritablement se concentrer sur les mots et aussi ce qui n'est pas forcément dit, je le répète, de telle sorte que le public rentre à fond dans ces personnages et les suive au cours d'une progression dramatique qui va nous amener, que ce soit une comédie ou au contraire un drame ou une tragédie, qui va nous amener jusqu'à la fin de la pièce. C'est en ce sens que ce dépouillement qu'il veut, qu'il met en œuvre, ce dépouillement favorise cette immersion du spectateur dans la pièce. Voilà ce que je peux vous dire sur à peu près cette philosophie. Alors, il appelle ça, au fond, l'incarnation, parce que c'est une façon pour un comédien de rentrer tellement dans le personnage, d'être tellement habité par ce personnage, qu'au fond, il l'est devenu, et qu'il entraîne le spectateur à y croire totalement et à l'accompagner.
Mais c'est une vision aussi de la part du metteur en scène et de l'acteur par rapport à un texte, je dirais, par rapport à une période donnée. Il est évident que je pense que d'ici 40 ans ou 50 ans, la même pièce n'aura pas le même impact et ne sera pas perçue de la même manière par les gens qui la jouent.
Oui, mais c'est aussi l'intérêt du théâtre. C'est qu'une même pièce peut être vue, comprise et interprétée de façon différente, selon la sensibilité de celui qui va la mettre en scène et qui, lui-même se metteur en scène, faisant avec les personnalités des comédiens qu'il utilise. Donc il y a, si vous voulez, une sorte d'échange permanent entre trois éléments qui sont le texte, le metteur en scène et les comédiens. Et c'est une sorte de va-et-vient dans ce triangle, qui fait que, au bout d'un moment, et ça c'est le travail préalable, c'est les répétitions, au bout d'un moment, ce mouvement intérieur dans ce triangle fait surgir une vision, effectivement, de la pièce. Donc il se peut que cette même pièce soit donnée par un autre metteur en scène, avec une approche, pas radicalement différente, mais assez différente, oui. Parce que certains textes peuvent être interprétés de différentes façons. Si vous regardez, par exemple, je vais vous prendre un exemple un peu limite, hein, volontairement, pour illustrer ce que je dis. Toutes les pièces de Molière, qui sont des pièces comiques pour, dans l'ensemble, évidemment, sont basées sur des choses horribles. Ce sont des drames. L'avare, nous avons affaire à un malade, à un fou. Le bourgeois gentilhomme, nous avons affaire à un autre type de malade. Même si l'on prend la pièce peut-être la plus italienne de Molière comme Scapin, c'est une chose horrible. On fait croire à des parents qu'on a kidnappé leur enfant. Il n'y a peut-être rien de plus monstrueux. Et Molière nous fait rire avec cela. Donc, on peut traiter des pièces de Molière de façon assez noire, sans oublier évidemment l'aspect comique, mais on peut insister sur l'aspect noir, ou au contraire, non. Je veux dire, voilà, c'est un exemple que je vous donne, je répète, c'est un peu limite, mais c'est pour illustrer le propos.
Alors, par rapport au public, moi je suis le public, il y a plein de gens comme moi. On vient au théâtre peut-être pour découvrir un auteur, effectivement, pour voir tel ou tel comédien ou de nouveaux comédiens, mais aussi pour voir un ensemble de choses. Alors, qu'est-ce qu'est le théâtre pour nous? C'est non seulement la pièce, le comédien ou les comédiens, le metteur en scène, la façon dont il interagit sur ses comédiens, mais aussi on a le plaisir du décor, le plaisir du costume et le plaisir par exemple de la lumière utilisée dans le théâtre. Alors le fait qu'on puisse édulcorer un peu ces pièces en enlevant par exemple les costumes, les décors et autres pour ne laisser que l'auteur et les comédiens, est-ce que c'est pas donner une vision plus restrictive finalement de ce qu'est le théâtre dans son ensemble?
Tout peut se défendre. Bon, dans tous les cas de figure, les lumières sont là.
Elles sont là, oui.
Et je dirais qu'elles sont d'autant plus importantes quand il n'y a pas justement les décors et les choses comme ça, parce qu'elles peuvent... Elles sont là pour créer, pour marquer, par exemple, le temps qui s'écoule, pour marquer différentes étapes, pour aussi accentuer le caractère de certaines situations. En ce qui concerne les décors, les costumes, bon, en général, il y a des costumes. Quand c'est des costumes d'époque, oui. Quand la pièce s'y prête ou l'exige, il y a des costumes d'époque. Mais disons que, très vite, les mises en scène les font oublier. C'est vrai que l'absence de décors surprend parfois les gens qui viennent au Théâtre du Nord-Ouest et ils sont un peu surpris. Ils sont d'abord surpris par la proximité qu'ils ont avec les comédiens. Et très vite... ils trouvent ça extraordinaire. Ils nous disent qu'ils ont été un petit peu surpris pendant les 5-6 premières minutes. Et puis après, ils s'y sont très très bien faits, au contraire. Et puis, l'absence de décor, si elle les a également un peu déstabilisés, un peu surpris, voire avec un peu de regret, très vite, ils ne s'en sont plus aperçus. Parce que, et bien c'est ça le défi. Le défi, c'est d'arriver à dépasser l'aspect un peu spectacle pour arriver au fond du problème, si j'ose dire.
Alors, je pensais toujours à ces pièces que j'ai vues à la Comédie Française, mais il y a d'autres, je ne parle pas spécialement de la Comédie Française. Je me posais la question sur ces jeunes comédiens ou ces comédiens qui viennent travailler au Théâtre du Nord-Ouest. Je me posais la question si on ne leur demande pas plus d'excellence qu'ailleurs. Et si des comédiens qui justement travaillent dans d'autres théâtres avec des décors et des situations, par exemple dans la Comédie Française, dans les scènes des Trois Sœurs où on voit la neige tomber en arrière-plan derrière la fenêtre pour montrer que c'est bien l'hiver, c'est pas pour démontrer une mise en scène un peu plus rapide que ce que vous pouvez faire et qui permet au spectateur, enfin celui qui est assis dans son fauteuil, il regarde la neige tomber, donc il fait d'un seul coup, il décroche un peu du texte et il ne voit pas les anicroches qu'il peut y avoir, enfin les accros qu'il peut y avoir dans la pièce. Et je me posais la question, dans ces jeunes comédiens du Théâtre du Nord-Ouest, si ce n'est pas plus difficile pour eux d'arriver à se faire un trou parce qu'on leur demande une excellence et que parfois on a tendance à regarder le comédien qui est avec plein de costumes et plein de décors et qu'on dit « Ah oui, il est bien, il est bien, il est bien », alors que l'autre est 10 fois supérieur, mais lui, il est dans sa simplicité, il est un peu dans la tenue d'Adam.
Il faut demander à Florian ce qu'il en pense.
Ben, c'est-à-dire qu'après, le fond reste le même, c'est-à-dire que l'objectif principal, c'est toujours se rapprocher d'un certain sentiment, d'une vérité au plus près du personnage. De toute façon, c'est vrai qu'il y a, il y a le décor, toutes ces choses-là, mais pour nous, l'essentiel, c'est d'être le plus naturel possible et de pouvoir sûrement se rapprocher au plus du personnage.
Je dirais que je crois que pour un jeune comédien, pour un comédien qui débute, l'exercice effectivement difficile qu'on lui demande au Nord-Ouest est extrêmement formateur. On ne lui demande pas l'excellence à la première représentation de la première pièce qu'il va jouer. On aimerait bien, mais bon. J'ai pu voir, moi, au Nord-Ouest, des gens débuter. Et commencer par un petit rôle dans une pièce, un autre rôle, un rôle un peu plus important dans une autre pièce, etc. Et au bout de 3 ans, avoir un très très bon niveau. Sachant que souvent, ces jeunes suivent parallèlement des cours d'art dramatique, etc. Pas toujours, mais bon. Donc, au contraire, je trouve que cette demande, cette exigence que l'on a au Nord-Ouest est un facteur de progrès et un facteur de qualité et prépare leur avenir, prépare bien leur avenir. Quand quelqu'un a travaillé pendant 2 mois et demi un personnage qu'il est totalement intégré et que en plus, on lui a donné quelques indications techniques, parce qu'effectivement, il y a une technique, mais c'est surtout pas la priorité, mais que quand même, il en faut. Il a nécessairement progressé. Et vous savez ce que l'on dit, plus on joue, mieux on joue. Donc, voilà.
Est-ce que ça arrive qu'on ait envie, vous étiez metteur en scène, de voir par exemple des comédiens de différentes compagnies et de se dire tiens, celui-là je prendrais bien pour monter une pièce parce qu'il me plaise et j'ai vraiment envie de les réunir pour faire quelque chose.
C'est ce qui se passe. Par exemple, ça se passe très souvent au Nord-Ouest. Un metteur en scène qui met un spectacle, qui présente un spectacle, va voir les autres spectacles qui tournent dans le théâtre, repère un certain nombre de gens. Quand il va penser à sa pièce suivante, s'il en a une autre, il se dit, tiens, j'ai vu telle jeune fille ou tel garçon ou tel monsieur et ça serait intéressant pour tel rôle, etc. Ça marche beaucoup comme ça aussi. Sans parler des gens qui peuvent être extérieurs au théâtre et qui viennent et qui disent tiens, mais ça, voilà, une comédienne ou un comédien intéressant, etc. Mais ça vaut un peu pour tous les théâtres. Je pense que des directeurs de casting, des directeurs de production, etc., on va prendre un mot trivial, font un peu leur marché quand ils vont au spectacle.
Est-ce que vous faites des représentations spécialement pour eux, par moment, ou des premières spécialement pour ces gens-là ?
Non.
Alors comment ce théâtre arrive à vivre ?
Mal. il arrive à vivre assez mal parce que, ben parce que c'est lourd et parce que la, comment dirais-je, c'est très ambitieux de vouloir donner 4 spectacles ou 10 spectacles dans la journée. Donc c'est vrai que on a eu par exemple dans ce théâtre une grosse difficulté, c'est que l'auteur qui a été choisi pour l'intégrale était Strindberg. Strindberg est très peu connu en France, par une élite. Et encore, on s'est aperçu que les gens connaissent environ 4 ou 5 ou 6 pièces de Strindberg et pas les 55 pièces qu'il a pu écrire. Donc, avec Strindberg, on n'a pas eu une affluence comme on a pu avoir avec Feydeau ou avec Shakespeare. Et ensuite, on a donné un cycle qui s'appelait « Des prisons et des hommes ». Le titre était quand même assez dur, et là aussi, on a vu une fréquentation qui a été moyenne. Donc, pendant un an, les recettes ont été assez faibles. Donc, le théâtre rencontre de grosses difficultés. Alors, nous donnons actuellement un cycle « La biche », c'est beaucoup plus drôle. On a une fréquentation qui est correcte, mais bon, les grèves du mois de novembre et la neige du mois de décembre ne nous ont pas arrangés. On nous dit que c'est un peu partout pareil dans Paris, mais enfin, c'est... Néanmoins, c'est quand même difficile pour nous parce que on a eu effectivement 2 mois d'hiver durs à cause des événements extérieurs sur lesquels on n'a aucune prise. Alors bon, cependant, le cycle La Biche attire quand même du monde, et en tout cas, ce sont des comédies. Hein. Je crois que La Biche a écrit un drame sur les 166 pièces qu'il a faites. Donc, on a 165 comédies.
Vous faites appel, il y a des écoles qui viennent vous voir, il y a des... comment ça se passe
Oui, vous savez, le théâtre n'ayant pas beaucoup de sous, il ne peut pas faire une énorme publicité, mais enfin, il est sur des sites comme Billard et Duc, la FNAC, etc. Il y a une gazette, il y a un site du Théâtre du Nord-Ouest. Il y a un mailing qui est fait sur un certain nombre de clients fidèles, etc. Et ce qu'il y a au Théâtre du Nord-Ouest, c'est que d'une part, les tarifs sont très raisonnables, mais qu'aussi on peut acheter ce que l'on appelle un passeport, qui permet de voir toutes les pièces d'un cycle et de les revoir autant de fois que l'on veut, et ce passeport coûte 100 euros. Donc pour 100 euros, pendant 6 mois, on peut aller au théâtre et voir un nombre de pièces incroyables et les revoir, celles qu'on a envie, etc. Donc c'est très intéressant pour des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent à mettre dans les loisirs spectacles. Donc ça, c'est intéressant pour le public. Alors nous avons un public de fidèles, mais ça ne suffit pas.
Bien, spectacle La Biche, il a lieu jusqu'à quand
Il a lieu jusqu'à la mi-mars.
Mi-mars, donc il ne reste pas beaucoup de temps devant nous pour y aller.
Non, il faut se dépêcher. Mais vous savez, vu la cadence à laquelle les pièces sont données, il y a encore de quoi faire. Il y a encore de quoi faire. Et il y a des pièces de facture assez différentes. La Biche a pu écrire des pièces en 3, voire 4 actes, et puis beaucoup de pièces en un acte, qui sont des petits bijoux très bien ciselés. Et les mises en scène sont très différentes, puisqu'on a affaire, comme vous le disiez, à 40 compagnies différentes qui, chacune avec sa vision... Alors, il n'y a pas la même pièce jouée par 2 compagnies différentes. Non, chaque compagnie, cette fois-ci, a choisi des pièces différentes les unes des autres.
Est-ce qu'il y a eu des metteurs en scène excessivement connus ou des très grands acteurs qui ont été, séduits par la volonté de ce théâtre et de vouloir l'aider en jouant des pièces?
Oui, alors pas forcément en jouant des pièces, mais en l'aidant de différentes façons. Oui, effectivement, il y a des auteurs et des comédiens et comédiennes connus qui connaissent ce théâtre. Je vais vous parler par exemple d'un monsieur qui nous a quittés récemment, c'est Laurent Terzieff, qui appréciait énormément le Nord-Ouest.
Ça, c'était dans sa volonté.
Voilà.
Enfin, Laurent Terzieff a toujours été à l'image de ce théâtre, finalement.
Voilà, et donc, il appréciait énormément, il appréciait Jean-Luc Génère. Voilà, donc, y a beaucoup de gens. Bon, je ne veux pas faire une liste, mais parmi les grands comédiens et grands metteurs en scène, oui, je crois qu'il y a une bonne appréciation du travail qui est fait au Nord-Ouest. Alors évidemment, on peut ne pas tout aimer, puisqu'il y a des gens qui se lancent. Ça veut dire que parfois, ils peuvent ne pas être au top de leur art, ils commencent. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils puissent le faire. Et je crois aussi que cette chance qui est donnée, ça plaît aussi aux gens de la profession parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément eu ça, eux.
Très bien, nous allons nous arrêter sur ces derniers mots. Le théâtre se trouve aux 13 rues du Faubourg Montmartre. Il est ouvert tous les jours ?
Oui, tous les jours. Il n'y a pas d'interruption.
Donc des représentations de quelle heure à quelle heure ?
Alors, en semaine, en général, c'est, disons, les lundis, mardis et jeudis, c'est à partir de 19h. Les mercredis, samedis et dimanches, c'est à partir de 12h30 ou 14h30. Et il y a, alors le dimanche, c'est 12h30, 14h30, 17h, 19h, 20h45.
Pour une pièce différente.
Pour deux pièces.
Deux pièces.
Puisqu'il y a deux salles. Vous voyez, donc effectivement, ça fait beaucoup de spectacles.
Ouais, tout à fait. Bah, écoutez, je souhaite bonne chance et bon courage au théâtre. J'espère que cela va durer très longtemps, qu'il va reprendre pied avec les beaux jours. En ce moment, il présente le théâtre La Biche, donc toutes les pièces de La Biche qui sont jouées. Donc une partie va être jouée jusqu'à fin mars. Avec des compagnies différentes. Merci à Pierre Sourdive d'être venu.
Vous.
Merci à Florian Bernard.
Merci beaucoup.
Bonne suite dans cette
c'est
vie
gentil,
de
merci
comédien.
Beaucoup. Merci.
Autre radio, autre culture. Au revoir. Autre radio, autre culture.